Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6 heures avant minuit, ultime jour de mars 2025. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab, quelle bonne idée. Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous conseiller le visionnage d'une nouvelle série documentaire sur Netflix. Son titre, de rockstar à tueur, le cas Quentin. 3 épisodes de 40 minutes pour revenir sur les actes du chanteur de Noir Désir et rendre enfin un semblant de justice médiatique à Marie Trintignant et Christina Radi. Car 22 ans après le décès de l'actrice battue à mort par celui qui était à l'époque la grande rockstar française, on découvre aussi la disparition tragique de son épouse Christina Radi, pourtant survenue il y a 15 ans. Une femme sous emprise, défenseuse farouche du père de ses enfants pendant son procès et son emprisonnement suite au meurtre de Marie Trintignant, une femme poussée au suicide par la folie de son compagnon. Un retour nécessaire donc sur l'emprise que peuvent exercer les auteurs de violences conjugales, mais aussi sur la violence de celui-ci en particulier, figure publique dont les actes terribles ont été romantisés et excusés par la presse. Car oui, en 2003, MeToo n'était pas encore arrivé et la relecture des réactions médiatiques d'alors sont très éclairantes sur la façon dont les choses ont évolué et peuvent encore s'améliorer. À voir d'urgence, mais avant, on passe au flash avec Zoé.
L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise à mesure que les jours passent. Le bilan du séisme de magnitude 7.7 qui a frappé de plein fouet la Birmanie et la Thaïlande s'alourdit. Plus de 2000 personnes y ont déjà perdu la vie et près de 4000 blessés sont dénombrés. Les experts craignent des milliers de morts supplémentaires. À Mandalay, la ville de Birmanie au plus proche de l'épicentre, l'intensité des efforts de secours s'est réduite ce matin. Les conditions de recherche sous 40 degrés n'aident en rien. Une semaine de deuil national vient d'être décrétée par les autorités. La Terre n'a pas fini de trembler. Au Japon, une alerte volcanique de niveau 3 a été donnée dimanche sur l'activité d'un volcan de l'île Kyushu, au sud du pays. Les autorités ont appelé à la vigilance de la population, mais aucun ordre d'évacuation n'a été donné. Le pays, situé sur la ceinture de feu du Pacifique, compte 110 volcans actifs sur son territoire. Cette alerte sera donc loin d'être la dernière. Marine Le Pen, figure incontournable de l'extrême droite, vient de subir un coup dur. Une décision de justice qui pourrait bouleverser durablement le paysage politique. Condamnée pour détournement de fonds publics, la chef de file de l'extrême droite fait face à une peine lourde, prison, inéligibilité et amende. Retour sur les faits et réactions avec Marilyn.
Marine Le Pen fera appel. 4 ans, dont 2 ans ferme, aménagés sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 euros d'amende, mais surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, donc immédiate. C'est le verdict rendu par le tribunal correctionnel de Paris ce midi à l'encontre de la triple candidate à l'élection présidentielle. Si Marine Le Pen n'a pas encore réagi publiquement, elle est invitée du JT de 20h de TF1 ce soir. Une condamnation qui a fait beaucoup réagir, autant en France qu'à l'international. Voici les réactions nous venant de l'étranger. Le chef du gouvernement hongrois, Viktor Orban, a réagi sur son compte X, anciennement Twitter, avec un « entre guillemets, je suis Marine ». De son côté, le Kremlin déplore, entre guillemets, une violation des normes démocratiques. Oui, oui, vous avez bien entendu. Quant à lui, Elon Musk dénonce, entre guillemets, je cite une nouvelle fois, un abus du système judiciaire, notamment sur son compte X, anciennement Twitter. Ici, chez nous, Éric Ciotti, ancien président des Républicains et allié de Marine Le Pen, s'interroge. La France est-elle encore une démocratie? Quant au président du parti de la condamnée, Jordan Bardella, il s'est insurgé en indiquant qu'elle a été, je cite, injustement condamnée et que la démocratie, je cite de nouveau, la démocratie française est exécutée. Le parti de gauche, LFI, a quant à lui pris acte avec réserve en rappelant que le parti continuera à combattre le RN dans les urnes comme dans la rue. Mélanie Vogel, quant à elle, sénatrice écologiste des Français à l'étranger, le rappelle. Si Marine Le Pen se retrouve dans cette situation, ce n'est pas à cause des juges, c'est à cause du fait qu'elle a détourné presque 1 million d'euros d'argent public. Pour rappel, les faits reprochés remontent à la période 2010 à 2017. Les députés Front National sont alors soupçonnés d'avoir employé des assistants parlementaires pour servir les intérêts du parti au lieu de travailler sur les dossiers européens. Ce qui correspond donc à des emplois fictifs financés par le contribuable européen. Ce qui constitue un délit représentant un préjudice évalué entre 5 millions et 7,5 millions d'euros. Le parti d'extrême droite a quant à lui été condamné en qualité de personne morale, ainsi que 8 autres députés ou eurodéputés, dont Bruno Gollnisch, ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen et député européen de 1989 à 2019, qui encourt 3 ans de prison dont 1 an ferme sous bracelet électronique, 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Louis Alliot, vice-président du RN et maire de Perpignan, a quant à lui pris 18 mois de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, 8 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité sans exécution provisoire. Donc il reste bien maire de Perpignan avec un bracelet électronique. Nicolas Bay, quant à lui, ancien secrétaire général du FN et ancien vice-président du parti, encourt 12 mois de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, 8 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Cela sonne la fin du mythe d'un parti anti-système. L'avenir politique de Marine Le Pen est quant à lui en suspens. Elle qui fera donc appel de cette décision. Après la pétition, place au tractage, le RN va donc lancer une opération de tractage pour dénoncer, entre guillemets, un scandale démocratique.
Autre procès de grande ampleur, ce lundi, l'escroquerie immobilière du siècle passe aujourd'hui devant la justice au tribunal correctionnel de Marseille. Ce dossier surnommé « Affaire Apollonia » porte le nom de la société mise en cause, spécialisée dans le conseil financier et les investissements immobiliers. 15 prévenus sont soupçonnés d'escroquerie en bande organisée pour avoir vendu des investissements, soi-disant sans risque, à des centaines de professionnels de santé au début des années 2000. Leur préjudice frise le milliard d'euros, un chiffre hors norme pour un procès hors norme qui s'étalera sur 3 mois.
D'autres arnaques à l'horizon, Zoé ?
Arnaque, je ne sais pas, mais ce lundi, TikTok lance une nouvelle fonctionnalité en France, le TikTok Shop. Une sorte de téléachat 2.0 qui permet aux utilisateurs et utilisatrices du réseau social chinois de commander la belle paire de baskets qu'ils voient en vidéo en un clic, sans même quitter l'application. Cette option existe déjà en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays d'Asie, mais si c'est un carton, les commerçants traditionnels ne voient pas ce changement d'un bon œil. Les algorithmes pourraient générer de la concurrence déloyale et quid de la protection des données. La fin de ce flash info arrive au galop, mais c'est au trot que les Bretons auront la chance de voir les chevaux du Grand National de Trot, une course hippique mythique. Les dates et localisations de la compétition ont été actualisées. L'Ille-et-Vilaine accueillera les cavaliers de haut niveau le mercredi 23 avril 2025 à l'hippodrome de Meur-de-Bretagne sur la commune de Val-d'Anast et mercredi 6 août 2025 à Saint-Malo. Un autre événement arrive bientôt à Rennes, le centre commercial d'Alma prépare son prochain défilé de mode digne des plus grands, éthique et engagé. Les candidatures sont ouvertes pour toute personne, amatrice ou passionnée, qui souhaite se lancer en défi et casser la démarche sur le podium le 26 avril prochain à vos formulaires. Pour les autres âmes créatives et artistiques, le collectif Micro-Sillon organise ce week-end un atelier de création radiophonique au Théâtre de la Paillette à Rennes. Chapeauté par Jeanne Lévédé et Anne Kropotkin, de férus de son en tout genre, ce stage s'étale sur 3 jours. Écriture, prise de son et montage n'auront plus de secret pour vous si vous vous laissez tenter. La clé en radio, c'est tendre l'oreille. Les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet de Micro-Sillon ou sur la page dédiée de l'atelier sur le site de la Paillette.
Mais oui, n'hésitez pas, la radio c'est trop cool. Merci Zoé pour ce flash qui est fini. Et l'interview, elle commence maintenant.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
À mes côtés ce soir, fleur ancrée pour toujours à l'avant-bras, Angèle Magnier. Et ongles noirs à strass très très pointus, Chloé Vilaine, sont étudiantes en Master 2 Métiers et Arts de l'Exposition à Rennes 2. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez nous parler d'une exposition que vous organisez avec votre promo au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Mais peut-être pour commencer, vous pourriez nous dire quelques mots sur votre master, ce master MAE pour métier et art de l'exposition. En quoi consiste-t-il et à quel métier vous destinez-vous ?
Alors, c'est un master qui est professionnalisant, qui se fait en 2 ans. On y accède par une formation soit en histoire de l'art, soit en art plastique. C'est vraiment un master professionnalisant. On est tous commissaires d'une exposition pendant l'année de M2. Normalement, on a un espace d'exposition sur le campus, la galerie ARSC, mais qui est fermée là depuis 2 ans pour travaux. Donc, on a dû délocaliser. Cette année, on a la chance d'exposer au Musée des Beaux-Arts. Donc, on est 16 cette année dans la promotion de Master 2, à être 16 commissaires de cette exposition. Et au-delà de ça, on est divisé en différents pôles, que sont les pôles d'administration, de communication, de régie, de programmation, médiation et d'édition.
Ok, bon, on va parler de ces différents pôles plus tard, mais peut-être déjà pour présenter cette exposition qui s'appelle L'Alchimiste, Gilda, Suzanne et les autres, qui est visible depuis vendredi dernier et jusqu'au 31 août. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom énigmatique ?
Alors, ce nom assez énigmatique, je pense que c'est une formule, un modèle de titre que vous avez pu déjà voir dans d'autres expositions. Il s'agit en fait des titres des œuvres présentées dans le patio du Musée des Beaux-Arts. L'alchimiste est une pièce centrale et après c'est deux noms de femmes puisque notre artiste s'intéresse aussi beaucoup à des questions féministes et sur la représentation des différents genres. Et donc c'est un titre qui a été très compliqué à construire, je pense comme beaucoup d'expositions mais même pour vous, vos émissions. Et c'est un titre qui nous a été proposé par l'artiste et on l'a adopté, quoi. On a adopté l'alchimiste, Gilda, Suzanne et toutes et les autres sculptures présentées, voilà.
Puisqu'on est à la radio, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ces œuvres, ces créations d'Elsa Sahel ?
Alors, il faut savoir que Elsa Sahel, c'est une artiste qui travaille uniquement la céramique. Ça lui arrive de travailler avec d'autres matériaux, mais dans ce cas-là, elle fait appel à des artisans ou à des artisanes extérieurs. Notamment, on a des œuvres qui travaillent avec du verre dans l'exposition, avec de la fonte d'aluminium. Mais elle ne pratique que de la céramique. C'est de la céramique, donc c'est un matériau qui est dur après cuisson, mais qui, dans les œuvres d'Elsa, conserve cet aspect mou. Elle travaille beaucoup avec la forme, puis après elle travaille avec l'émail, elle travaille sur le reflet de la couleur que peuvent prendre l'émail. Donc c'est des formes qui restent très organiques, qui ont une apparence de mollesse, mais qui en fait sont de la céramique, donc qui sont très dures.
Elles sont aussi très colorées pour la plupart. C'est vraiment un festival de couleurs différents que vous pouvez retrouver dans le patio. Il y en a même qui brillent. Vous parlez de mes strass. Moi, j'adore ce qui brille. Et pour les amateurs de paillettes, venez.
Parfait. Tout à l'heure, vous nous parliez de pôle. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont vous avez construit cette exposition par pôle, du coup, si j'ai bien compris. Comment ça s'est passé ?
Au début de l'année, on a tous choisi à peu près, en fonction de nos appétences, dans quel pôle on voulait continuer, en plus d'être commissaire de l'exposition. Cette année, c'est aussi particulier parce que toutes les missions, par exemple, de régie d'œuvre ou de communication, par exemple, Angèle est en communication, elle a beaucoup travaillé avec la communication du musée, puisque c'est aussi la voie institutionnelle qui est peut-être plus compliqué que la charte de Rennes 2 ou quand on est sur la galerie et art et essai. Et donc c'était d'autant plus formateur, je pense, pour nous tous. Chacun a pris son rôle très à cœur dans les pôles et c'était l'articulation entre nous qui permettait de réaliser autant des super transports d'œuvres où elles arrivent en bon état, où il y a un bon suivi, mais aussi pour la programmation, je pense qu'on va en parler plus tard, et c'est à la fois la communication, mais aussi le pôle programmation et médiation, et l'administration, par exemple, qui doivent travailler ensemble pour pouvoir aboutir à des événements pour tous.
Et vous me disiez hors antenne que c'est pas vous qui avez choisi la sculpture, c'est pas vous qui avez choisi cet artiste. Donc comment on fait pour s'adapter, pour arriver à s'imprégner de quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi de mettre en avant ?
Tout à fait. En fait, la difficulté particulière de cette année que de travailler avec le Musée des Beaux-Arts, c'est qu'on travaille avec une institution qui a déjà ses équipes et qui surtout a déjà son planning, qui est à milieu d'un planning universitaire avec une rentrée en septembre. Dans une institution classique, une rentrée, ça se fait en janvier. Donc, ça, tout se prépare en janvier. Donc, nous, on est arrivé avec un temps très réduit pour travailler sur une proposition d'exposition. Donc, c'est sûr que nos enseignantes prennent le devant en essayant déjà de sélectionner une artiste ou un artiste avec des œuvres qui les intéressent, un propos qui les intéresse, et surtout un artiste, une artiste qui accepte de travailler avec une promo d'étudiante, parce que c'est pas le cas de tout le monde, parce que ça a son lot de challenges aussi.
Et justement, en parlant de challenge, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, des réalités de terrain, j'ai envie de dire, dont, face auxquelles vous ne vous attendiez pas, en fait?
Alors oui, je pense qu'on en a plusieurs aussi en fonction de nos pôles, mais je vais parler pour le commissariat. Il y avait beaucoup d'œuvres qu'on aimait beaucoup, mais on a des questions de budget. On a déjà eu une belle enveloppe pour pouvoir transporter de la céramique. C'est vraiment très... Bah, c'est coûteux et c'est particulier. C'est un transport qui est très fragile. Mais quand on aime bien une œuvre et qu'elle est à Istanbul, bah, on fait une croix dessus. Et c'est là-dessus aussi... sur quoi on travaille, mais même en France, en fait, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Même si on se dit, notre budget il est énorme, en fait, ça va très vite.
Il y a des histoires d'assurance derrière.
Tout à fait. Des prêteurs privés aussi, c'est aussi des questions difficiles. La plupart des œuvres sont issues de la collection personnelle d'Elsa et de sa galerie, qui est la galerie Papillon, qui la représente depuis plus de 25 ans aujourd'hui. On a eu la chance d'emprunter une œuvre à Paris Collection, qui est la régie d'œuvres de la municipalité de Paris, pardon, et aussi une œuvre à la collection d'Antoine de Galbert. Et donc ça nous a quand même beaucoup aidé d'avoir des œuvres qui étaient rassemblées en région parisienne et qui étaient disponibles aussi, puisque Elsa est aussi présentée actuellement au musée de la piscine à Roubaix.
Voilà. D'accord. Et donc, vous parliez de cet artiste qui a, du coup, accepté de travailler avec des étudiants, des étudiantes. Quelle relation vous avez eue avec elle? Est-ce que vous l'avez beaucoup consultée? Est-ce que vous l'avez rencontrée plusieurs fois? Comment ça s'est passé?
Alors, ça, c'est propre à chaque pôle. Nous, en tant que commissaire, on l'a tous rencontrée en début d'année. On est allé la voir à Paris, on a visité ses ateliers. Ensuite, elle est venue une autre fois à Rennes pour qu'on échange sur le projet de commissariat. Et là, elle est venue récemment, pendant le montage de l'exposition, et pour quelques événements de la programmation, il y avait une conférence qui s'est faite samedi au musée. Après, on sait que, par exemple, le pôle régie a beaucoup été en lien avec Elsa, plus que les autres pôles, parce qu'il fallait déterminer énormément de choses sur les œuvres. Chloé en parlait tout à l'heure, leur localisation, si elles avaient des caisses ou pas, comment fonctionnait pour le transport. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément d'allers-retours entre le pôle régie et l'artiste. Nous, du point de vue de la communication, si je parle pour mon pôle, on a dû beaucoup travailler avec elle pour les questions de droit d'image, et globalement toute la promotion a travaillé avec elle pour la relecture des textes aussi. Ça a été un point assez central. D'accord. Donc beaucoup d'allers-retours, et on la remercie énormément de la confiance qu'elle a pu nous accorder, surtout de la patience, je pense.
Oui, parce beaucoup que... de patience et d'échange de mails.
Et donc cette artiste, si j'ai bien compris, elle nourrit un peu son œuvre du féminisme, surtout des années 80. Vu que vous êtes des expertes d'histoire de l'art, je vous pose la question piège. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la représentation des femmes globalement dans l'histoire de l'art, plus particulièrement dans l'art contemporain, puisque c'est ce dont on parle? Comment est-ce que on s'empare de cette question actuellement? Comment on la réinvente? Vous avez 4 heures.
Alors, il y a eu un événement assez important dans l'histoire de l'art en 71. C'est Linda Nochlin, qui est une doctorante en histoire de l'art américaine, qui a sorti son livre, son doctorat, qui s'appelle « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?». Ça a été un livre qui a vraiment été fondateur et qui a vraiment bouleversé l'histoire de l'art, comme rarement des livres ont pu les bouleverser. Et à partir de là, il y a eu énormément de mouvements de féminisme qui sont partis des États-Unis dans le milieu de l'histoire de l'art et qui ont petit à petit... acquis l'Europe et la France. On peut parler d'un collectif d'artistes qui s'appelle Guerilla Girls, qui a fait des sortes de posters un peu humoristiques et qui demandait si pour être une femme et rentrer au musée, il fallait forcément être nue. Et donc, il y a eu une prise de conscience à ce moment-là qui a amené à beaucoup de performances dans les années 80 autour des questions de la nudité. Je pense à Orlan ou à...
Nikita Saint-Fel.
Voilà, exactement. Donc maintenant, on a une prise de conscience qui a été assez drastique tout de même sur ces questions-là de nudité et de représentation des corps des femmes, et qui maintenant commence à être plus ou moins acquis. Il y a encore du travail à faire évidemment, mais où on se questionne vraiment maintenant quand on va exposer un nu dans des collections permanentes d'un musée, de s'il ne faut pas l'accompagner d'un cartel qui explique que quand même peut y avoir un peu une objectification du corps de la femme qui n'est pas terrible, du moins de notre jour, même si c'est très daté.
Si je peux rajouter un point, elle parlait notamment de Linda Nochlin et des Guerilla Girls. L'année dernière, c'était toute la promotion en M1 qui avait commissarié une exposition au FRAC Bretagne qui s'appelait Féminie, où on travaillait avec les collections du FRAC, mais aussi avec les archives de la critique d'art de Rennes qui sont rattachées à l'université. Et ces questions, notamment du féminisme des années 80, étaient abordées puisqu'on partait du fonds d'archives de la critique Aline Dallier-Popper, qui est considérée comme la première critique d'art féministe en France, qui a ramené toute cette pensée dont a parlé Angèle. Et je fais un petit instant promo pour le M1 de cette année, qui est encore présenté au FRAC Bourgogne, au FRAC Bretagne, pardon, excusez-moi.
C'est moins loin.
C'est moins loin, c'est plus pratique. Qui présente l'exposition « Il n'y a pas de fumée sans feu » à partir du fonds d'archives de Nathalie Magnon. Voilà, c'est une super expo à découvrir après la nôtre, ou avant, d'accord, comme vous voulez.
C'est en ce moment, là.
C'est en ce moment, d'accord, tout à fait.
Et quant à vous, le vernissage, si je ne me trompe pas, c'était vendredi.
C'est exact.
Comment ça s'est passé ?
Énormément de monde, on ne s'y attendait pas.
Super.
Donc c'est très chouette, mais c'est vrai que dans un espace réduit avec beaucoup d'œuvres fragiles, ça a été quelque chose pour nous.
Ouais.
Mais énormément de retours positifs. Il faut dire que Elsa, elle s'inscrit quand même dans quelque chose de pas facile politiquement. Elle a été au cœur d'un scandale en 2012 à la FIAC et au voyage à Nantes, où elle avait exposé une version féminine de la figure la pisseuse dans la Fontaine Royale à Nantes, qui a été vandalisée. Le voyage à Nantes a porté plainte, etc. Ça allait assez loin, cette histoire. Mais donc, du coup, c'est une artiste qui ose représenter la sexualité, mais qui la représente d'une manière assez grotesque et humoristique. Et puis, Chloé parlait des couleurs, en fait, qui rendent la chose très joyeuse, très humoristique. Donc, on avait un peu peur de la réaction du public, quand même, sur certaines choses. Mais on n'a que des retours positifs, là, depuis que l'exposition est ouverte. On a des gens qui rentrent dans l'espace d'exposition et qui éclatent de rire. C'est des choses qui se sont passées aussi au vernissage, et ça, on en est assez reconnaissant et soulagé.
Mmh. Avoir des vraies réactions humaines dans une exposition, c'est pas toujours facile, et c'est pas forcément l'image qu'on a du musée et d'un visiteur ou d'une visiteuse au musée qui est très calme, on dirait presque des bibliothèques parfois. Venez dans le patio et venez rire avec nous, on sera ravis de vous accueillir.
C'est l'empreinte que vous avez amenée en tout cas. on peut parler du reste de la programmation, parce que vous en avez un peu parlé, il y a beaucoup d'événements satellites à cette exposition, des discussions, des projections, il y a une journée d'études, des ateliers, des lectures théâtralisées, même un drag show. Est-ce que vous voulez nous parler de certains d'entre eux, parce que je pense qu'on pourra pas tout aborder, mais...
On peut déjà vous dire que la journée d'études a été annulée, qu'on est désolé. Il y avait une projection qui aurait dû se faire la semaine dernière au Tambour. On essaie de la reprogrammer. Voilà, c'est les aléas de Rennes 2 et les démobilisations en fait, qui sont nécessaires.
Sinon, demain, on organise une lecture théâtralisée par l'Arène Théâtre de textes féministes qui nous ont inspirés autour du travail d'Elsa Salle. C'est de 13h à 14h à la bibliothèque centrale de Villejean. Le 12 avril, il y aura aussi cette lecture, mais cette fois-ci au Musée des Beaux-Arts.
C'est gratuit ?
Oui, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, venez. Ce ne sera pas les mêmes textes pour les deux lectures. Donc, n'hésitez pas à venir aux deux.
Ensuite, comme événement, on organise un spectacle de danse contemporaine autour de la question de la danse contact, parce que c'est quelque chose qui, mine de rien, transparaît pas mal le rapport au corps dans le travail d'Elsa, et surtout le rapport au corps de l'autre. Donc Hyperthermique Extrait, ça sera un spectacle de danse contemporaine présenté par Agrume Vapeur le 10 avril à 18h à l'Hôtel Pasteur. Là aussi, c'est en entrée libre, donc n'hésitez pas à venir. On organise aussi un atelier céramique au campus de la Harpe le 18 avril de midi à 14h. C'est sur inscription, mais c'est gratuit. Et pour l'inscription, ça se passe sur notre LOASO qui s'écrit 330XPO.
Il reste seulement 4 places, donc si vous voulez venir...
Il faut se dépêcher.
Il faut un peu se dépêcher.
Mais vous n'avez pas chômé. Et concernant les tarifs de l'exposition, l'accessibilité, comment ça se passe ?
C'est gratuit, libre. Et notre exposition, on a la chance que cette année, elle soit intégrée à Exporama, donc le festival d'art contemporain à Rennes. Donc elle sera accessible jusqu'au 31 août par tous et toutes.
Puis je voulais finir par une dernière question, parce que du coup, vous finissez votre master, votre bac plus 5 avec cette belle expo. quels sont vos projets pour la suite ?
Là, il faut qu'on valide notre master avec un stage. Donc, on part tous en stage plus ou moins à partir du 1er mai. Et puis après, on a des appétences un peu différentes dans la promotion. On reste tous autour de l'art contemporain, mais il y a des gens qui s'orientent plus vers de la régie, d'autres plus vers de la com, mais beaucoup vers la production d'expositions.
Ok. Et vous ?
Moi, de la communication plus.
Ok. Super.
Moi, je cherche un stage, si quelqu'un m'entend.
Voilà, c'est le moment de faire un appel.
Non, je cherche encore un stage. Et puis, on a aussi un mémoire qu'on a tendance à mettre de côté, puisque ça va très vite. Mais il repointe le bout de son nez.
Eh bien, bon courage. Et merci à vous deux d'être venus. Donc, je le rappelle, l'exposition L'Alchimiste, Gilda, Suzanne et les autres, c'est jusqu'au 31 août au Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Merci beaucoup. 6 heures avant minuit.
C'est lundi, c'est l'heure de décrypter les infox dans la chronique Fake News. Et cette semaine, on revient sur plusieurs fausses informations autour de la guerre en Ukraine, parce qu'effectivement, le durcissement de ton de la part des États-Unis envers Kiev s'est accompagné d'une intensification de la désinformation en faveur de la Russie. Ce mois-ci, un prétendu message de Vladimir Poutine a par exemple beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le chef du Kremlin s'exprime face caméra devant un décor officiel.
Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать...
Si l'on en croit les sous-titres qui accompagnent l'image, Poutine lancerait « Aujourd'hui, je tiens surtout à m'adresser à vous, peuple de France, plutôt qu'à l'autre imbécile, l'idiot, le truc qui vous sert de président. » Il poursuivrait un peu plus loin en déclarant « Je compte donc sur vous pour le dissuader de faire le con, de faire le malin avec moi, sans quoi je serai obligé de réagir et réagir violemment. » Alors, chers amis français, par pitié, dites-lui de gérer plutôt les gilets jaunes ou qu'il s'occupe bien de Brigitte. Sinon, juré, je l'écrase. Cher ami français, je vous respecte beaucoup, mais si Macron fait encore son malin, je l'élimine. Voilà, c'est salé. Ce contenu a reçu plus de 120 000 j'aime sur Instagram et a été partagé des dizaines de milliers de fois sur TikTok, Instagram X et Facebook. Mais voilà, ces images sont loin d'être récentes et surtout, bien sûr, les titres sont totalement faux. Les sous-titres, pardon, sont totalement faux. L'AFP a retrouvé la trace de la vidéo originale datant en fait de février 2022. Il s'agit en réalité d'un discours du président russe justifiant son opération militaire spéciale, celle marquant le début de l'invasion russe en Ukraine. En vérité, Poutine y déclare ceci. Et maintenant, quelques mots très très importants pour ceux qui pourraient être tentés d'intervenir de l'extérieur. Quiconque essaye de nous entraver et plus encore, de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Et cela vous conduira à de telles conséquences que vous n'avez jamais rencontrées dans votre histoire. Nous sommes prêts, toutes les décisions nécessaires ont été prises à cet égard, j'espère que je serai entendu. En ce mois de mars également, une autre image a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. On y voit une prétendue une du journal La Croix, datée du 13 mars 2025. Son titre, Zelensky continue de nier l'échec de l'offensive de Koursk. L'identité graphique du journal français est extrêmement bien reproduite, mais il s'agit en réalité d'un montage. La véritable une du papier, publiée à la même date et montrant la même photo de Zelensky, titre « L'Ukraine respire, l'Europe se ressaisit ». Plusieurs autres fausses unes de journaux anglais et américains ont récemment circulé, véhiculant de faux chiffres et de faux verbatim d'acteurs engagés dans la guerre en Ukraine. Alors pour ne pas tomber dans le piège de la vaste opération d'influence pro-russe déployée actuellement sur les réseaux sociaux, menée depuis la Russie et appelée Doppelganger, le mieux est toujours de diversifier vos sources et de vérifier tout ce qui vous paraît trop gros ou suspect.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Notre répondeur est vide ce soir, mais sachez que vous pouvez nous laisser un message vocal, un retour sur nos reportages, une réaction à ce qu'ont dit nos super invités, tout ce que vous voulez. Laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25 35. Et puis avant de se quitter, je voulais vous dire quelques mots sur les jeux concours actuellement proposés par Scilab. Vous pouvez gagner 2 places pour le spectacle du Pokémon Crew Opponent de Passé. Ça se passe le vendredi 18 avril prochain à 20h. Le Pokémon Crew, c'est un crew qui fait du breakdance. De la breakdance, je ne sais jamais comment on dit. Vous les avez peut-être vus. On dit comment, Marilyn ?
Breakdance ? Moi, je dis breakdance comme toi.
Non, mais du ou de là ? Ouais. Du breakdance. Du breakdance, okay, parce que c'est la dance, tu vois. Donc, je sais pas. Oh, je suis perdue. Vous avez compris quoi ? Vous les avez peut-être vus aux Jeux Olympiques. Ils y étaient. Ils et elles y étaient. Pour jouer et pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe qui est Power Move. Et puis le 7 avril à 19h30 au Liberté, soirée électro, Mythos vous propose Synapson, Julien Granel et The Ivener. Là encore, besoin d'un mot de passe pour jouer et pour gagner une place. Le mot de passe, c'est
Alexandre et Paul.
Yes, les prénoms des membres de Synapson. À ne pas confondre avec ceux d'autres formations électro, parce que j'ai mis des petits pièges dans mes réponses. Et puis, toujours en ligne, le concours pour le spectacle par d'autres voix d'Ambré Sanatori. Ça, c'est le jeudi 3 avril au Triangle. Mot de passe,
feu.
Feu. Merci Marilyn pour la technique et à demain.
Si la love. La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Scilab,
la radio sauvage.